Mais oui, le grand entretien ce matin en direct des studios de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Vous le savez, Inter s'installe ici à Saint-Étienne toute la journée pour de nombreuses émissions en direct, en public. Passez nous voir aujourd'hui au Al Mazra. On va déguster le jeu des 1000 euros par Jupiter, le 18-20 de Claire Servageant sont là. Pour vous, Saint-Étienne donc, après Strasbourg en décembre dernier. Pour Inter, c'est une étape dans la France qui, depuis un peu plus d'un mois, se prête à l'exercice du grand débat national. Des débats, il y en a eu de nombreux dans la ville et autour, des cahiers de doléances aussi. Qu'est-ce qui s'est exprimé dans ce processus? On va le voir maintenant avec nos invités. Bernard Marconnet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Inter. Monsieur le maire sans étiquette de Châtillon, d'Azergues, 2250 habitants. Thomas Legrand était chez vous pour le grand débat d'hier soir, le deuxième que vous avez organisé dans votre commune. C'était sur le thème de la fiscalité et des dépenses publiques. Thierry Mandon, bonjour.
Bonjour.
On vous a connu, Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État, puis à l'enseignement supérieur. C'était sous la présidence de François Hollande. Vous avez depuis quitté la vie politique. Vous dirigez maintenant, ici même à Saint-Étienne, la cité du design. Saint-Étienne, ville que vous avez retrouvée.
Oui.
Quelques décennies.
Trois décennies après
vos études ici même. Véronique Narboux, bonjour.
Bonjour.
Bonjour consoeur et merci de nous recevoir ici à France Bleu Saint-Étienne dont vous êtes la rédactrice en chef. Et enfin, pour terminer le tour de table, Yann Gallic, reporter à la rédaction d'Inter. On a pu écouter Yann votre Zoom tout à l'heure et on va parler avec vous notamment d'aménagement du territoire. Alors monsieur le maire, commençons ensemble en toile de fond de notre émission aujourd'hui et du grand débat. Il y a évidemment la mobilisation des Gilets jaunes, elle dure depuis 3 mois maintenant. Une première question pour savoir si elle vous a surpris, cette mobilisation, ou est-ce que vous la sentiez venir autour de votre commune et dans le dialogue que vous pouvez peut-être avoir avec vos administrés ou d'autres maires?
Alors, il se trouve qu'à Châtillon-d'Azergues, il n'y a pas une très forte mobilisation de Gilets jaunes. Ça tient peut-être au fait qu'on n'a pas de rond-point dans la commune, donc ça peut expliquer cela. Même si le département nous en a promis un en quelques temps, mais dans les communes plus importantes, il y a une mobilisation, oui, qui a effectivement surpris, parce que je pense que l'ensemble du personnel politique en France n'avait pas vu venir cette forme de mobilisation un petit peu archaïque, si j'ose dire.
En quel sens
que... Alors, on n'a pas manqué de faire un rapprochement, par exemple, avec la période de la Révolution française. Il y a quelque chose comme ça, en effet.
Ça vous rappelle ça parce que vous êtes prof d'histoire.
Peut-être
aussi.
Un peu. C'est peut-être un peu de la déformation professionnelle, mais ça peut rappeler ça. Cette sorte d'insurrection populaire pour des motifs fiscaux. Toutes les grandes révolutions ont toujours eu des motifs fiscaux. Et ce décrochage, si j'ose dire, entre les élites qui gouvernent, une sorte de caste qui est au pouvoir, et la population. Mmh. Alors, ça ne fonctionnait déjà pas il y a 200 ans. Dans un système de monarchie absolue, ça peut encore moins fonctionner dans un système démocratique comme le nôtre, où quand même le peuple est souverain, et de temps en temps, le peuple se souvient qu'il est souverain et reprend sa souveraineté.
On dit souvent, monsieur le maire, que les maires, précisément, sont les élus préférés des Français. Toutes les enquêtes soulignent qu'ils sont épargnés par la défiance qui s'exerce à l'encontre des autres politiques. Est-ce que ce lien, vous l'éprouvez, et est-il resté aussi fort depuis 3 mois que les Gilets jaunes se manifestent?
Alors effectivement, je pense que les maires, et sans doute encore davantage les maires des petites communes, ont un lien immédiat et très fort avec leur population. Les habitants de Châtillon me connaissent, je pense, presque tous personnellement. Ils savent où j'habite, ils me rencontrent dans la rue. Et ça crée un lien immédiat et un lien politique très fort. Donc oui, je pense que cette confiance, elle existe encore. J'ai pas l'impression, alors je suis peut-être un peu naïf, mais je n'ai pas l'impression qu'elle était entamée dans les semaines qui viennent.
On va venir dans quelques instants avec vous, Bernard Marconnet, à la manière dont vous organisez désormais le débat. Un mot, Thierry Mandon, je le disais, vous avez quitté le pouvoir pour diriger aujourd'hui un lieu de savoir. À ce double titre, quel regard avez-vous porté sur ce mouvement des Gilets jaunes inédits que personne n'a vu venir, disait monsieur le maire à l'instant. Quel regard donc ici, dans la ville et peut-être de manière plus générale?
Mais ce qui était une distance entre deux univers, l'univers de la décision, plutôt localisé à Paris ou au cœur des grandes métropoles, mais plutôt à Paris, et le reste du pays, cette distance est devenue une faille. Et aujourd'hui, il y a faille sociale est plus silencieuse.
Elle
n'est plus silencieuse. Vous qui avez fait des études de philosophie avez probablement lu Alfred Hirschman dans les années 70 qui disait qu'il y a trois attitudes possibles dans une démocratie, la loyalty, la loyauté, l'exit, on sort, parce que ça va pas, mais bon, on garde pour soi sa colère ou ses frustrations. C'est la situation qu'on a vécue ces 30 dernières années, je pense, donc ça vient de loin. Et puis, la voice, et à un moment, on en a marre. On ne veut plus donner sa voix à un élu, on estime nécessaire de la prendre. Voilà. Et on en est là. Ce qui se passe, c'est vraiment une faille très profonde dans la démocratie qui ne pourra pas être colmatée par des gimmicks, par des demi-réformes. Ça va à la, bien sûr, ça naît sur le terrain social, plus que sur le terrain fiscal, mais ça naît sur le terrain social, mais ça concerne le terrain démocratique et probablement à moyen terme l'avenir des sociétés qui sont notre société française qui est une société de marché, donc maintenant complètement, ce qui fait souffrir tous ceux qui ont du mal à l'accepter.
Vous l'avez dit, Thierry Mandon, trois moments: la loyauté, la sortie, l'exit et donner de la voix. Il y a un grand débat qui est aussi inédit dans cette forme-là en France. Est-ce que c'est un endroit où on peut donner de la voix, justement, ou est-ce que c'est ce que vous appeliez un gadget?
Alors, d'abord, c'est drôlement bien. Je crois que Bernard Manin le disait tout à l'heure, il a raison. C'est extraordinaire que les Français, en tout cas une partie des Français, prennent la parole. Est-ce qu'il y a une adéquation entre la sociologie de ceux qui sont le cœur des Gilets jaunes et ceux qui participent au débat? Là, je serais plus prudent. Enfin, c'est très bien qu'il y ait ce débat. À Saint-Étienne, il y en a vraiment. Ils ont pris ça. Je crois qu'ils avaient même commencé avant de manière.
Bras-le-corps.
Enfin, magnifique. Après, moi, j'ai une analyse. Et nous avons, à la Cité du Design, une analyse, à laquelle on va d'ailleurs consacrer notre prochaine biennale qui commence le 21 mars. C'est que bien sûr, il y a un problème de débat, mais il y a un problème beaucoup plus profond. Ce qu'on appelle des terrains d'entente. Comment on fait quand on a une table pour que les gens acceptent de s'asseoir autour de la table? Quelles sont les règles qui font qu'ils acceptent de s'asseoir autour de la table, d'échanger, quitte à être minoritaire ou à être désavoué, mais qu'ils acceptent par avance la décision qui pourra être prise? C'est pas le débat le problème. On peut débattre. C'est même pas le produit de sortie du débat, qu'est-ce qu'en fera le pouvoir. C'est comment, dans une société où les distances sont telles, 2h50 de Paris en TGV, 11 000 mètres carrés l'immobilier à Paris, 1000 mètres carrés à Saint-Étienne. À Paris, une place de parking, ça s'achète 3000 euros le mètre carré. Ici, vous achetez un appartement à 1000 euros le mètre carré. Comment on fait dans un pays de distance aussi grande pour refaire société? Et ça, c'est plus que du débat.
Bernard Marconnet, la question de la distance est apparue très vite, hein, même au début du mouvement des Gilets jaunes, contestation de la hausse des prix du carburant par des gens qui disent on ne peut pas faire autrement que de prendre notre voiture parce que les services publics sont loin ou les services tout court. Est-ce que cette dimension-là, elle s'exprime aussi dans les débats que vous organisez dans votre ville de Châtillon-d'Azergues?
Alors elle s'est pas franchement exprimé jusqu'à maintenant, mais c'est une réalité. Châtillon-d'Azergues, c'est pas la réalité la plus profonde. On est à 20 km de l'agglomération lyonnaise. Mais il n'empêche que si on veut, pour la plupart des gens, aller travailler, il faut prendre sa voiture. Parce qu'il y a bien des trains, mais pas suffisamment. Les transports en commun sont distants. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, on est obligé, effectivement, d'avoir une voiture. C'est pas par goût, c'est par nécessité absolue.
Et le débat se passe bien chez vous?
Alors, le débat se passe bien, oui.
Vous avez senti une envie de la part des citoyens de prendre la parole?
Au départ, pas du tout. En fait, quand le grand débat a été lancé, j'ai fait la proposition au conseil municipal en disant est-ce qu'il vous paraît opportun d'organiser le grand débat à l'échelle de notre commune, petite commune, 2000 et quelques habitants, ou pas? Est-ce que c'est peut-être à l'échelle de la communauté de communes ou ailleurs? Et puis, la très grande majorité des conseillers ont dit oui, on peut l'organiser à Châtillon. Alors c'est là que les vrais problèmes commencent, parce qu'après, la question suivante, c'était qui va l'animer?
Et donc ça a été vous.
Et mes conseillers m'ont dit, tu as à la fois la légitimité et la compétence pour le faire. La légitimité, je veux bien, la compétence, c'est très gentil de leur part de l'attribuer.
Mais vous êtes perçu en tout cas comme quelqu'un de neutre qui est là pour faciliter la circulation de la parole.
Oui, c'est ça. Alors ça, je me cantonne à ce rôle très strictement dans le débat. Donc on a essayé de faire quelque chose de plus neutre possible. Je réexplique à chaque début de débat que je ne suis pas le représentant du gouvernement. que mon opinion personnelle sur la nécessité ou pas du grand débat ou sur ce qui pourrait en être fait, je la réserve. Et si quelqu'un veut absolument le savoir, je l'expliquerai, mais hors réunion. Et après, effectivement, mon rôle consiste à faire circuler la parole, à surveiller le chronomètre aussi. Mmh. Et jusqu'à maintenant, à l'issue de deux débats, ça s'est bien passé. Enfin, comme votre confrère l'a souligné tout à l'heure, les gens s'écoutent.
Oui, et échangent de manière
très
positive.
Très positive.
Thierry Mandon, Paris et le reste de la France, Paris et le désert français, comme disait un très vieux livre de géographie, les grandes villes et ceux qui les entourent, les services publics qui disparaissent, il y a les effets de la géographie ancienne, et les effets des choix politiques qui ont été faits. Est-ce que cet éloignement est compensable, réversible? Est-ce qu'il faut rouvrir des services publics, les transformer? Comment voyez-vous ce problème massif d'aménagement du territoire?
Mais, je crois que la France a une particularité par rapport aux pays, même européens, anglo-saxons encore plus, c'est que ça marche quand la machine publique fonctionne, quand l'État fonctionne. Et aujourd'hui, l'architecture gothique de construction de l'État, ultra-vertical, interdit la réponse, les réponses, l'élaboration de réponses et la production de réponses au plus près du terrain. La machine à décider, à fabriquer de la décision publique, doit être pensée, mais en profondeur. Elle ne souffre pas d'un défaut d'autorité. Il y a de l'autorité, il y en a trop. L'autorité verticale et non légitime.
Non légitime.
Oui, parce qu'elle est verticale. Aujourd'hui,
c'est l'autorité de l'État. Enfin, l'État, il y a de toute façon une part de verticalité.
Mais l'État, c'est pas une cathédrale immuable avec les 50 plus brillants cerveaux du pays décident ce qui est bon pour le pays et le reste du pays suit au canon. L'évolution la plus profonde de la société française, c'est que on est le pays au monde qui a vu le taux de diplomation au niveau de l'enseignement supérieur le plus progresser ces 20 dernières années. On est à 42% de diplômés de l'enseignement supérieur. Et voilà, ces jeunes salariés qui se retrouvent dans des entreprises ou dans la fonction publique et qui doivent subir, sans jamais qu'on leur demande leur parole, des décisions qui viennent de on ne sait pas trop. Mmh. Un responsable de l'État, je vous donne cette... me dit l'autre jour, dans le département, vous savez comment ça marche l'État, il me dit monsieur le ministre, parce qu'il se rappelle que j'étais ministre, bah, d'abord les administrations centrales servent Paris, puis ensuite servent les métropoles, et puis nous on a le reste. Et voilà, donc il faut rebâtir cette machine à décider, la repenser en profondeur, la transformation de cette décision publique, c'est indispensable, et quand la machine publique marche bien en France, la France marche bien. Quand elle ne marche pas.
Thierry Mandon,
Véronique Narbeau.
Les gilets jaunes que nous on croise à France Bleu Saint-Étienne Noir depuis 3 mois vont sans doute boire du petit lait en vous entendant, parce que ce divorce que vous décrivez entre eux et l'État, pour le nommer ainsi, il est palpable dans toutes leurs conversations. Mais qu'est-ce qu'on tire désormais de ce grand débat? Vous l'avez souligné, les gilets jaunes sur les ronds-points, ce ne sont pas forcément les débatteurs que l'on retrouve dans les discussions avec les maires, les députés. Désormais, une fois que le diagnostic est posé sur un territoire comme la Loire où les gens sont très captifs, par exemple, de la voiture, ils veulent des résultats très concrets. Est-ce que demain j'ai une voiture propre et pas chère? On peut sortir ça du grand débat ou vous êtes très dubitatif?
Non, mais il peut sortir plein de choses, y compris intéressantes. Je prends un exemple tout bête sur la voiture. Bon, et l'histoire des 80 km/h. En design, dont je m'occupe, on apprend, c'est une méthode de pensée le design, et on apprend un certain nombre de choses, y compris à comprendre les mécanismes profonds de ce que les individus n'expriment pas toujours. Le problème, bien sûr, il y a un problème de 80 km/h, mais c'est pas 80 km/h le problème. C'est en même temps que 80 km/h la multiplication des radars. En même temps que la multiplication des radars, la privatisation d'un certain nombre de radars et de contrôles, et des points qui repoussent pas. Et moi, voilà, je prends un exemple tout bête, on n'en parle pas de cette histoire. Quelqu'un qui fait une bêtise, qui perd 3 points parce qu'il a roulé 10 km/h plus
vite
que...
Sur son permis.
Vous savez combien de temps il faut pour les récupérer, ces 3 points?
1 an.
2 ans.
2 ans.
Bah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Pourquoi?
Mais parce que il a besoin de sa voiture pour travailler.
Ça assigne à résidence.
Et vit dans une angoisse permanente, un stress permanent. C'est que la punition est démesurée par rapport
Au fait, moi je suis pour la limitation de vitesse, je suis pour le respect des limitations de vitesse, je suis pour la sanction de ceux qui... Mais voilà, faisons repousser les points plus vite. C'est tout bête, ça peut sortir du grand débat.
Et vous, Bernard Marconnet, comment vivez-vous à la fois la verticalité de l'État, colossale, disait Thierry Mandon? Et ce qu'il vient de dire, là, sur les routes.
Oui, mais ça, je partage entièrement ce qu'il vient de dire. Il y a quelques décennies maintenant, quand on avait eu un autre débat sur le projet de constitution européenne, on avait ressorti de la naphtaline ce concept de subsidiarité. L'idée que plus on prend les décisions près de l'endroit où on les applique, mieux c'est. Je pense qu'on l'a un petit peu oublié depuis, et effectivement, on a parfois l'impression que les décisions politiques tombent de très très haut. Alors, je dois préciser pour les auditeurs que Châtillon-d'Azergues n'est pas dans la Loire, on peut pas être parfait, mais dans le Rhône, c'est juste à côté. Et il se trouve que dans le Rhône, on a, pour des raisons que vous comprendrez sans doute, une assez forte pression pour fusionner les communes, pour créer ce qu'on appelle des communes nouvelles. Je ne sais pas si c'est une nécessité absolue, vu la taille de nos communes. Je connais des régions de France où les communes sont beaucoup plus petites, il y aurait peut-être plus d'urgence à fusionner. Mais cette pression politique, on la ressent très très fortement. On a dû, pendant ce mandat, et je crois que ça n'est jamais arrivé dans une équipe municipale, on a changé de communauté de communes, on a changé de département, puisque vous savez que le département du Rhône a été séparé de la ville de Lyon, qui est devenue une métropole, on a changé de région avec la fusion des régions, et certains ont même changé de commune. Ça fait beaucoup pour un seul homme, si j'ose dire.
Oui, donc c'est la bourrasque permanente des statuts.
Et quand on a eu fusionné nos communautés de communes, ce qui est assez compliqué, on avait à peine terminé la fusion que le préfet nous disait, il faudrait envisager la prochaine étape qui serait de fusionner encore pour en faire une plus grande. C'est tout simplement pas possible.
Yann Gallic.
Pour revenir à l'aménagement du territoire, Thierry Mandon, vous évoquiez la distance, cette notion de distance. Alors les gens que j'ai pu croiser au cours de mes reportages cette semaine dans les petites communes rurales de la Loire et de la Haute-Loire ont l'impression que le fossé, la distance a certes toujours existé, mais que le fossé s'est accru ces dernières années, et une distance de plus en plus grande avec les services de l'État. Et lors des réunions publiques où j'ai pu discuter un peu avec les gens cette semaine, ils me disent tous, la plupart, que aujourd'hui l'accès aux services publics est de plus en plus compliqué. Autrefois, même dans une petite commune, on pouvait encore avoir un bureau de poste. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dématérialisé, et certains ne s'y retrouve plus. Est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui, est-ce que la France ne paye pas aujourd'hui 3 ou 4 décennies de décentralisation ratée finalement?
Thierry Mandon.
Oui, c'est même pas qu'elle a été ratée, c'est qu'on s'est arrêté absolument au milieu du guet. Moi, je suis occupé un peu de réforme de l'État pendant quelques mois. Ça a été assez difficile. J'étais en butte avec l'administration centrale sur plein de sujets, et je vois bien que là, on a un vrai problème culturel dans ce que décrivait Monsieur le maire tout à l'heure. Il y a finalement l'idée quand même, aujourd'hui, dans ceux qui décident, qui produisent des décisions publiques, que moins il y a d'élus, mieux c'est quoi. Que quand même il y a une centaine de personnes dans ce pays qui savent ce qu'il faut faire. C'est le saint-simonisme appliqué. Saint-Simon, c'est un philosophe qui a expliqué qu'il fallait faire l'alliance de 50 grands patrons et 50 fonctionnaires, administrateurs à l'époque, et qu'avec ça, on dirigeait le royaume. Voilà. Et donc, si cette décentralisation ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème mécanique ou un manque d'imagination. C'est un problème culturel, presque anthropologique, qui fait qu'on vit encore sur l'idée qu'il faut être un cerveau très brillant, très éclairé pour savoir ce qui est bon pour le peuple, et qu'on se méfie du peuple et de ses élus. Et c'est ça, quand je disais il y a une faille, il y a une cathédrale gothique qu'il faut repenser aujourd'hui, je pense que ce pays, notre pays, en est là. Voilà. Et que donc il y a un grand bond en avant démocratique, et il faut reconstruire une architecture politique et démocratique sans laquelle on ne trouvera pas d'issue à des crises aussi profondes que celle des Gilets jaunes.
Thierry Mandon, on a vu, en tout cas dans le document qui définit les thématiques du grand débat national, que la culture au sens strict ou au sens large ne faisait pas l'objet d'un chapitre ou même d'une question soumise à la sagacité des citoyens. Est-ce que vous le déplorez? Est-ce que vous le comprenez? On peut peut-être le comprendre aussi. Et comment allez-vous, vous, depuis une école de design comme celle de Saint-Étienne, faire vivre ces questions-là?
Alors, je vais prendre la deuxième partie de votre question pour répondre, essayer de répondre à la première. À Saint-Étienne, c'est une école d'art et de design. Et dans la Biennale, on va recevoir quelqu'un qui s'appelle John Meda, qui est un grand spécialiste mondial du design numérique, qui dit cette chose très vraie. La culture, l'art, c'est une question posée à un problème. Le design, c'est la solution apportée à un problème. Et que cohabitent ici, à Saint-Étienne, dans cette belle école, ces deux univers du questionnement libre à un problème. Et avec des méthodologies appropriées. Encore une fois, le design, c'est pas que des belles tables, c'est des façons de penser à partir des usages et des usagers. Que cohabitent ces deux cultures-là, c'est extraordinairement fécond. Et c'est ce qu'on va retrouver dans notre biennale, à travers des expositions, à travers des débats où des grands intellectuels vont se confronter avec des gens ici de terrain. Cette maille qu'il faut retisser pour que des univers dissociés, qui n'ont plus rien à se dire, qui vivent sur la même aire géographique, mais qui culturellement évoluent dans des systèmes complètement différents, pour que ces deux univers dissociés se réconcilient. Moi, je crois au contraire, je ne sais pas s'il faut le théoriser, je ne sais pas s'il faut en débattre, mais au pouvoir fécond de l'art et du design pour remailler.
Mais Thierry Mandon, vous disiez que la sociologie d'un rond-point n'est pas nécessairement celle d'un débat organisé en mairie. La sociologie d'une école de design, est-ce qu'on ne peut pas lui adresser la même critique ?
Bah, là, ici, on a une quarantaine de pourcents de boursiers à l'école d'art et design. Donc, c'est pas du tout ce qu'on pense. Des créateurs, hors même l'art et le design, ils viennent de tous les milieux sociaux. Quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose. Et pourquoi il a envie de l'exprimer? Je pense même que c'est la particularité de Saint-Étienne que d'avoir, au-delà de l'art et du design, un quartier créatif, des écoles, des grandes écoles, ici, largement représentées, qui essayent de donner l'expression. Ça, c'est pas...
Et ça a un effet d'entraînement puissant.
Ben, si ça s'arrête pas en chemin, c'est que l'architecture gothique, par définition, elle vous cantonne, vous pouvez réfléchir dans votre coin, mais quand ça devient sérieux, laissez faire les pros. C'est ça qui craque dans le pays aujourd'hui. C'est cette richesse, cette vitalité dont la France dispose, comment elle se retrouve au plus haut sommet de la prise de décision.
Thierry Mandon, vous qui avez pris les rênes de cette cité du design depuis à peine 6 mois, vous avez quand même conscience du boulot qui vous attend, parce que faire ce lien ou créer ce terrain d'entente, pour reprendre le mot d'ordre de la Biennale, ne serait-ce qu'avec les Stéphanois, jadis, pour faire écho à notre prof d'histoire, on disait Saint-Étienne, c'est la ville des armes, du cycle, du ruban. Aujourd'hui, on ne dit pas vraiment, ou en tout cas pas encore, d'emblée, Saint-Étienne, c'est la ville du design, même si elle fait partie du réseau UNESCO. C'est un peu connu, mais pas de tous les Stéphanois. Comment fabriquer ce vivre ensemble-là ?
Thierry Mandon.
Moi, je pense qu'il faut être très humble. Il y a un grand anthropologue américain qui s'appelle Clifford Geertz, qui a écrit un livre extraordinaire, qui m'a marqué tout le temps, qui s'appelle « Savoir local, savoir global ». Moi, je me concentre simplement, modestement, humblement, avec les équipes ici de la Cité du Design et avec le soutien de la ville de Saint-Étienne qui encourage, même qui pousse, qui tire, à produire localement des réponses. Voilà. Et ces réponses, ce savoir local-là, s'il devient savoir global, tant mieux. Et quand on m'interroge, je l'explique. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça.
On en reste là. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Thierry Mandon, qui dirige donc aujourd'hui cette cité du design, Me, You, Nous. Créons un terrain d'entente. C'est le thème de la prochaine biennale, 21 mars, 22 avril 2019. Monsieur le maire, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Maire de Châtillon-d'Azergues, le troisième débat, c'est pour dans combien de temps ?
Le troisième débat, c'est le 1er mars, donc c'est la semaine prochaine.
À bientôt, j'espère. Et merci à Yann Gallic et à Véronique Narboux. Il est 8h45, le Carrefour du 7-9, à suivre.